Voilà, le Christ est ressuscité.
En vérité,
Christ a sa nuyarde. Il faut en profiter parce que bientôt on ne pourra plus pouvoir le dire. Encore que, il paraît qu'il y avait des saints comme Saint Séraphin de Sarov qui disaient Christ est ressuscité toute l'année. Mais nous, on va le dire au moins jusqu'à la semaine prochaine, jusqu'à la clôture de Pâques. C'est très important. C'est très important. On a remarqué d'ailleurs que les fidèles, même les prêtres, le disent de moins en moins. À la fin, plus on approche du temps de l'ascension, moins les personnes pensent et disent « Ah oui, on a oublié, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, etc. » Bon, et donc, pour c'est le dernière conférence de cette année, de ce cycle, qui était, comme vous vous rappelez les uns et les autres, que je salue par les ondes, et comme vous vous rappelez les uns et les autres, c'était des conférences consacrées à la notion de dogme, et donc à la doctrine chrétienne et la théologie, et principalement au rapport entre la théologie chrétienne et la pensée du monde, en fait. Peut-être que vous avez l'impression que ce sujet n'a pas été traité. En fait, si, parce que très très souvent, presque dans chaque cours, nous avons fait allusion au fait que l'enseignement de l'Église se précise et s'ajuste en fonction des défis de la société civile et de la culture ambiante. Donc en fait, je crois qu'on l'a fait tout le temps, on a particulièrement montré le rapport entre dogme et kérigme dans les textes de Saint Basile. Donc on était quand même dans le sujet, et pour ce dernier cours, j'ai choisi de parler du dogme anthropologique. Alors ça surprend, parce qu'en fait, au début du premier cours, j'avais dit qu'on va parler de Dieu, etc. Mais il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'ai choisi cela. C'est d'une part, je veux rendre hommage à mes collègues, Père Razvan et Père Jean Bobog, qui viennent de présenter leur doctorat l'un et l'autre cette semaine, je crois, ou la semaine précédente, enfin très récemment. Et donc, ça nous honore beaucoup d'avoir des collègues très, très compétents, très bons et très intéressants, et qui justement ont traité dans leurs travaux personnels ces questions-là, c'est-à-dire, dans ce qui concerne Père Jean, c'est principalement la question de l'anthropologie qu'il traite de manière très, très, très brillante et très convaincante, et Père Razvan, c'est la question de la relation, la théologie et la science. Mais l'un comme l'autre, en fait, sont, comment dire, inspirés par le fait que le monde dans lequel nous vivons est un monde qui nous provoque continuellement, surtout actuellement avec les applications dans le domaine éthique des découvertes scientifiques ou des projets de recherche scientifique. Donc finalement, notre théologie est continuellement une théologie contextuelle, en fait, c'est-à-dire liée au contexte culturel dans lequel nous vivons. C'est-à-dire que c'est pas uniquement une théologie interne à l'Église, c'est pas uniquement une théologie dogmatique, justement, c'est vraiment une théologie charismatique, c'est une théologie qui répond, qui prétend répondre, qui veut répondre, en tout cas dans l'avenir immédiat, aux grandes questions qui se posent pour l'être humain. Et alors donc, dans ce domaine-là, mon propos sur l'anthropologie, c'est pas pour rivaliser avec Père Jean, parce que ce qu'il a fait beaucoup plus intéressant que ce que je saurais faire, mais c'est pour vraiment rendre hommage à son travail. Et donc j'ai employé l'expression de dogme anthropologique. Alors il faut que je précise un petit peu de quoi il s'agit, parce qu'en fait là je ne suis pas bien spécialiste moi-même, je ne m'adresse pas non plus à des spécialistes, je m'adresse à des collègues prêtres et des collègues fidèles, croyants, qui ont envie d'approfondir leur foi et de pouvoir mieux la formuler dans les conversations qu'ils ont à l'intérieur de l'Église ou à l'extérieur de l'Église. Donc, est-ce qu'on peut parler de dogme anthropologique? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Nous avions expliqué que le dogme est lié principalement à la révélation que Dieu fait de lui-même. Donc, le dogme, en fait, c'est la doctrine de l'Église, la doctrine interne surtout, telle qu'elle est précisée par les saints conciles œcuméniques. Et donc, généralement, elles concernent bon, voilà, les deux natures du Christ, les deux volontés du Christ, les deux énergies du Christ, la Trinité, l'égalité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, bon, etc. Et au fond, on peut dire qu'il n'y a pas d'autre dogme que celui-là. Est-ce qu'il y a même un dogme de l'Église? Ce serait à préciser. Est-ce qu'il y a un dogme de l'homme? C'est ça que je veux présenter ce soir. En fait, ce qu'il faut tout de même dire, c'est que de même qu'en ce qui concerne la théologie, c'est-à-dire la doctrine de Dieu, les chrétiens se manifestent surtout en glorifiant Dieu pour ce qu'il révèle de lui-même. On le glorifie comme Père, Fils et Saint-Esprit parce qu'il s'est révélé ainsi. Donc tout le monde avait bien compris que la dogmatique, la théologie chrétienne, ce n'est pas une activité qui prétend définir Dieu ou le délimiter dans des concepts humains, mais c'est une activité qui utilise des concepts humains de manière, je dirais presque symbolique, c'est-à-dire désignant plutôt celui dont il est question plutôt que l'enfermant dedans. Encore que Dieu, lui, veut bien être connu, hein, on a beaucoup parlé de ça, que Dieu était inconnaissable par lui-même, incompréhensible par lui-même, mais sa volonté profonde, et j'en arrive à mon sujet, sa volonté profonde est d'être connu des êtres humains, d'être connu, et cette connaissance étant en fait une participation à son amour et à ses énergies, à sa grâce, et même par l'intermédiaire des énergies, une participation à son être, hein, qui est tout à fait extraordinaire. C'est-à-dire que c'est ça qui nous remplit d'émerveillement, c'est que Dieu soit si bon qu'il veuille être connu de nous, et connu de nous non pas comme un objet, comme une chose appelée Dieu, mais être connu comme une personne qui nous admet dans son existence et nous fait vivre de sa vie. Alors, en ce qui concerne l'être humain, il y a quand même un rapport avec cela. Non pas qu'il y ait eu dans les conciles de l'Église, les conciles œcuméniques, des définitions anthropologiques. Je crois que justement les pères étaient assez sages pour s'en garder, comme ils se sont gardés de donner des définitions de Dieu, quand même. Mais surtout parce qu'en fait, la préoccupation ne s'est pas présentée. Il n'y a pas eu, bon, sauf peut-être la question de l'apollinarisme. Vous savez que Apollinaire de Laodicée développait des doctrines anthropologiques qui étaient erronées. Alors c'est vrai que dans le cas de l'hérésie apollinariste, les pères ont été amenés à préciser quand même la pensée de l'Église en ce qui concerne l'homme. C'est vrai. C'est un caractère dogmatique dans ce domaine-là. Mais en fait, c'est l'ensemble de la théologie de l'Église qui formule une doctrine de l'homme et donc un dogme de l'Église, c'est-à-dire un dogme de l'Église concernant l'être humain. C'est-à-dire une réalité qu'on pourrait appeler une révélation de Dieu concernant l'homme. Il y a un dogme anthropologique dans la mesure où l'être humain est révélé. Il est révélé par Dieu. Il n'est pas comme Dieu lui-même. Il n'est pas connu d'une manière exclusivement scientifique, comme un objet de connaissance, quel que soit l'intérêt, bien entendu, des sciences humaines, par exemple, qui font beaucoup, qui donnent quand même de l'être humain une connaissance, la psychologie, même l'anatomie, une certaine connaissance de l'homme. Mais là, ce que Dieu révèle de l'homme, et par l'homme, par l'être humain, c'est encore une autre profondeur, disons, qui ne conteste pas, je pense, ce que les sciences disent de l'homme, mais qui en donne toute la profondeur, toutes les racines cachées, en fait. Alors, donc avançons un petit peu là-dedans. Je pense que vous voyez quand même l'intérêt de la question. Je pense que l'idée la plus intéressante, si vous permettez de penser que ce que je dis est intéressant, l'idée la plus intéressante, c'est l'idée que l'être humain, ou l'homme, avec un grand H, est révélé. Révélé. Il n'est pas seulement connu comme comme sont les autres créatures, encore que les autres créatures, on peut dire aussi, du point de vue de la cosmologie chrétienne, qu'elles sont d'une certaine façon révélées. Mais l'homme lui-même est révélé. Il y a une révélation de Dieu en ce qui concerne l'homme. Alors cette révélation, si vous voulez, elle vient du fait que la création de l'être humain n'est pas d'abord la fabrication d'une réalité animée. Le terme de piscis, qui veut dire bien sûr faire, on a déjà expliqué ce mot, faire, fabriquer, inventer peut-être poétiquement une réalité. Mais en fait, si vous voulez, que Dieu, dans la Genèse, nous voyons bien que Dieu, d'une certaine façon, ne crée pas l'homme. J'espère que je ne vais pas vous scandaliser, mais au fond, Dieu n'a pas créé l'homme. Il n'a pas dit à propos, c'est Saint Basile qui dit ça dans le dernier discours, la dernière homélie sur l'exaéméron, c'est-à-dire le commentaire les 6 jours de la création, il dit ça, il dit c'est quand même intéressant, l'être humain est la créature, probablement la seule, pour laquelle Dieu ne dit pas, par exemple, que l'homme soit. Il ne dit pas ça, il dit que la lumière soit, etc. Enfin, il emploie beaucoup cette expression, cette injonction divine pour appeler à l'existence une créature qui n'existe pas. Elle existe pour toutes les créatures, y compris la lumière, etc. Elle n'existe pas pour l'homme. Donc ça, c'est assez important. Il y a quelque chose qui se passe là, qui ne se passe pas avec les autres. Et justement, Saint Basile, je me réfère toujours à Saint Basile, que j'aime beaucoup, puis qui a été le père principal, disons, cette année. Et Saint Basile dit dans ce dernier discours, ce commentaire des 6 jours de la création, il dit que justement, l'action divine concernant l'être humain ou l'homme dans la Genèse est une action par laquelle Dieu se révèle lui-même et révèle aussi tout le contenu de cette créature très particulière que nous sommes. Parce que Dieu ne dit pas que l'homme soit, mais il dit faisons. Non, tout le monde sait ça, évidemment, je m'en parle, ce sont des banalités absolument, mais c'est intéressant quelquefois d'y revenir. Et Saint Basile, en tout cas, ne considérait pas que c'était une banalité de le dire. Il dit faisons l'homme, et Dieu donc emploie ce pluriel à propos de l'homme. Bon, c'est pis ou même, c'est le même verbe, hein. Même verbe qui se rapporte à la piscis, la pio, qui veut dire faire. Bon, mais dans ce sens-là, c'est pas créé, dans le sens, c'est pas une création absolue. L'homme, l'être humain, n'est pas créé à partir de rien. Nous ne sommes pas créés à partir du néant. Non, nous sommes faits, modelés, façonnés, tout le monde sait cela, c'est développé beaucoup par Saint-Irénée, nous sommes façonnés à partir d'éléments qui sont préexistants. Mais à travers ces éléments préexistants que Dieu rassemble et modèle pour faire l'être humain que nous sommes, à travers ces éléments, Dieu se révèle, et il se révèle comme... pluriel, un et pluriel, c'est-à-dire du Saint Basile évidemment, comme trinitaire. Donc il y a une révélation trinitaire à travers le façonnage, le modelage, cherchez le mot, il y a une révélation trinitaire à travers le modelage de l'homme, et donc Dieu se révèle à travers l'homme, se révèle en faisant l'homme, et l'homme, donc, il est créature révélée, je veux dire pourquoi, parce qu'en fait il est à l'image, hein, donc c'est la raison, mais il n'est pas seulement une créature révélée, une créature qui révèle, à travers laquelle Dieu se révèle. Et donc ça, c'est extrêmement important, que quand Dieu façonne l'homme avec les éléments préexistants, il donne aussi ce qui est la vérité de l'homme, c'est-à-dire il dévoile l'être humain, et il se dévoile lui-même à travers l'homme, il se dévoile comme Dieu de cette plus unie pluralité, ou cet être très unique qui est le sien. Et en même temps, il dévoile, ça c'est très dit les pères aussi, que Dieu dévoile ce qui était contenu dans sa pensée, dans son logos. Donc l'homme est une révélation, non seulement en tant qu'homme, vous voyez, c'est quand même assez intéressant. C'est pour ça que ça, c'est un des fondements de l'icône, de l'iconographie. Je pense surtout de l'icône du Christ. C'est que l'iconographie, elle nous montre l'homme, elle nous montre un homme, un saint, ou l'humanité du Christ, mais à travers cette humanité, elle nous révèle Dieu qui, donc, agit pour cette existence humaine de manière trinitaire et qui manifeste à travers cette création, entre guillemets, ce modelage, il manifeste son intention profonde, son projet prééternel, donc qui est dans son logos. En fait, il manifeste. L'être humain apparaît comme, en fait, la manifestation de Dieu, du vouloir divin, de l'intention de Dieu et du projet de Dieu pour l'ensemble de la création, pour l'homme lui-même, évidemment, mais pour l'ensemble de la création. Donc on peut dire que l'être humain créé est la manifestation de la pensée éternelle de Dieu à son sujet, mais aussi de la manifestation de Dieu, on peut dire tel qu'il est, enfin, tel que nous pouvons le connaître, puisque, comme vous savez, nous ne connaissons pas l'essence de Dieu, c'est-à-dire la question de l'ontologie ne se pose pas vraiment dans la pensée patristique, mais nous connaissons Dieu tel qu'il se comporte, tel qu'il existe, en quelque sorte, c'est-à-dire trinitairement. Donc, il y a quand même donc une anthropologie révélée, ou révélante, ou révélatrice, c'est l'homme vu par Dieu et en Dieu, vu comme Dieu le voit, vu comme Dieu le conçoit de toute éternité, et dans un monde qui lui-même appartient à Dieu, qui est le monde de Dieu, qui n'est pas un monde, on l'a déjà dit plusieurs fois, le monde n'est pas, dans la vision chrétienne, une sorte d'objet, d'immense objet autosuffisant. Le monde n'est pas un objet, le monde est la révélation aussi de la sagesse de Dieu et de sa bonté, de sa volonté, de sa magnificence aussi, comme on sait très bien. Et cette anthropologie révélée, bien, se trouve bien sûr dans les Saintes Écritures, et particulièrement, alors pas seulement dans le livre de la Genèse que je viens de auquel je viens de me référer, mais je dirais particulièrement dans le Saint-Évangile. Qu'est-ce qui se passe dans le Saint-Évangile? Mais c'est dans le Saint-Évangile qu'apparaît l'homme parfait. L'homme créé, l'homme façonné, l'homme modelé, on est bien d'accord, mais l'homme aussi dans sa perfection, c'est-à-dire comme l'accomplissement ultime de la pensée divine, et l'accomplissement ultime du Logos, c'est-à-dire le Christ. Le Christ est, justement, en tant que Logos incarné, il est simultanément la manifestation, la révélation de lui-même en tant que Logos, c'est-à-dire qu'en tant que pensée éternelle de Dieu. Et c'est pour ça que le Père Stanislaus, pour ne pas omettre de le citer, a écrit un livre que nous espérons traduire et publier à la suite de la dogmatique du Père Stanislaus un jour. Et le livre de Père Stanislaus s'appelle « Chipul Nemuritor a lui Dumnezeu », c'est-à-dire l'image immortelle de Dieu. Donc ça, c'est un titre qui est très intéressant, parce que ça veut dire que quand qui voit l'homme, qui regarde un être humain, un enfant, une femme, un adulte, même, on peut même le dire aussi, les êtres humains complètement déshumanisés, c'est une autre question, mais elle est très importante, qui voit l'homme, d'une certaine façon, voit Dieu, je ne sais pas, mais contemple le destin prééternel de Dieu. Parce que l'homme, donc, est la révélation. C'est pour ça que j'ai, dans un passage de mes travaux, parlé de l'homme en tant qu'être théophanique. Ce n'était pas pour le plaisir d'employer un gros mot, encore que je m'en gargarise volontiers, toujours agréable d'avoir des mots extraordinaires à la bouche, mais vous savez, tout le monde sait ce que c'est qu'une théophanie. Une théophanie, c'est la manifestation de Dieu. Donc l'homme est une créature théophanique parce que justement il révèle le Logos qui est c'est pas seulement à l'image d'eux, si vous voulez, mais c'est encore, si je peux dire, encore plus profond que ça, c'est-à-dire qu'il est vraiment le phénomène, si je peux dire, de cette raison divine et cette sagesse divine. Cette logique du logos divin rempli de toute éternité de l'Esprit souverain du Père, est au jour connu de Dieu manifesté. C'est pour ça qu'on a dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 19, verset 5, la fameuse phrase « Voici l'homme ». Alors bien sûr, vous allez me dire « Oui, mais on a dit ça, voici l'individu qui est condamné, l'individu qui est accusé, l'individu qui est pas bien et qu'on va mettre en croix. » Mais on peut aussi prendre cette parole de saint Jean, enfin pas de saint Jean, mais citée dans saint Jean, on peut la prendre dans un sens beaucoup plus, un sens maximaliste, si vous voulez, et mettre à « voici l'homme » majuscule déjà, c'est-à-dire qu'effectivement, en présentant le Christ de manière publique à ce moment-là, juste avant devant Pilate, si je me souviens bien, on présente au fond l'homme dans sa perfection, dans sa totalité et dans sa plénitude. Et c'est vrai que cette manifestation de l'homme, elle va se faire dans la Pâque du Fils de Dieu et Fils de l'homme, et dans l'accomplissement des temps, elle va se faire au second avènement et au jugement redoutable. C'est-à-dire que on peut dire que l'ensemble de l'histoire universelle, quelle que soit la petitesse de notre planète dans les abîmes et les espaces infinis qui nous entourent, le noyau de l'histoire universelle, c'est justement cette révélation de l'homme, cette révélation de Dieu en l'homme, pas seulement pour l'homme, mais à travers l'homme, dans la transparence de l'homme, si on peut dire, cette révélation que Dieu fait de lui-même dans l'homme, oui, et qui va culminer au jugement. Parce que le jugement, ce ne sera peut-être pas autre, et n'est peut-être déjà maintenant pas autre chose que la confrontation d'une existence à l'amour qui ne l'a créée que par amour, qui l'a produite pour aucune raison que pour la joie qu'elle soit. Donc l'existence de l'être humain manifeste donc quel Dieu est notre Dieu. Elle glorifie par elle-même la surabondance de l'amour du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est pour ça que Père Dimitrios Theodeloi écrit justement ça dans Kipolnimolitor. Il dit seule la Trinité comme perfection de l'amour interpersonnel a pu amener à l'être une autre existence par la création. Donc cette phrase veut bien dire que l'existence de l'homme est la révélation de cette perfection de l'amour interpersonnel de Dieu. Donc la seule existence de l'être humain, de ce point de vue-là, du point de vue dogmatique, au fond, vous voyez, prouve, entre guillemets, ou manifeste, entre guillemets, l'existence du Dieu amour. Et donc on peut bien dire ça, que l'homme révèle Dieu. Voilà. Donc ça, c'est un élément très important. Et alors, en particulier, ce que j'ai à souligner, c'est le fait que l'homme, dans le fait qu'il révèle Dieu, donc il est l'homme révélé, mais l'homme révélé parce qu'il est l'homme en qui se révèle le projet de Dieu de le créer. Je ne sais pas, je n'arrive pas à m'exprimer très clairement, mais celui qui voit un homme, il a la révélation de l'homme tel que Dieu l'a voulu, le veut et le voudrait éventuellement. Donc c'est dans ce sens-là. Il n'est pas seulement une révélation de Dieu, mais une révélation de l'homme tel que Dieu le veut. Mais bien sûr, cet homme tel que Dieu le veut est en lui-même l'expression de la volonté de Dieu. Mais plus que ça encore, pour avancer un peu, ce qui est très important du point de vue de la révélation du caractère dogmatique de l'anthropologie biblique et chrétienne, c'est le fait que l'homme est la révélation de l'amour du Père. Révélation de l'amour de Dieu en général, si vous voulez, du Père, du Fils, du Saint-Esprit, mais particulièrement l'amour du Père. Parce que l'être humain est le vivant en qui Dieu se révèle par excellence comme amour paternel. La seule créature à avoir dans le Fils un caractère hypostatique. Donc un être théophanique par excellence, bien plus que le cosmos, bien plus que les chérubins, les séraphins eux-mêmes. Et c'est Christos Yannaras qui souligne ça, il dit « L'homme n'est pas, entre guillemets, une des créatures qui composent le monde, hein, c'est qu'il n'est pas une créature parmi les autres. » Bon, je sais qu'en disant ça, nous apportons une certaine contradiction à l'anthropologie officiellement enseignée dans nos écoles, c'est-à-dire qu'au fond, pour l'évolutionnisme plat, on va dire, hein. C'est-à-dire un darwinisme vraiment un peu plat. Au fond, ben, l'être humain n'est qu'un être parmi les autres, un être qui a mieux réussi son évolution, qui a mieux supporté les intempéries, je ne sais pas quoi, qui est un peu plus malin que les autres. Mais c'est tout. C'est pas, c'est, au fond, c'est un animal parmi les autres. Un animal parmi les autres. Moi, je le trouve quand même assez supérieur, comme ça, mais enfin on me dira, oui, il n'est que supérieur, il n'est au fond qu'un animal supérieur, qu'un animal évolué, qu'un animal, oui, qui accomplit, disons, la série des... Mais ça, ce n'est pas la vision biblique ou chrétienne. Nous disons que l'être humain n'est pas une créature parmi les autres. D'une part parce qu'il a été façonné de manière différente, d'autre part parce que Dieu se révèle en lui, et parce qu'en lui seul se révèle l'amour de Dieu de cette façon-là. Donc il n'est pas, c'est Christos Yannaras qui le dit, il n'est pas une des créatures qui composent le monde, mais une créature que la volonté de Dieu distingue de toutes les autres pour qu'elle soit image de Dieu dans le monde. Quand je dis, quand Christos Yannaras dit image de Dieu dans le monde, c'est-à-dire, je dis, véhicule de la révélation de Dieu dans le monde. C'est pour ça que c'est très important que chaque fois qu'on défend, excusez-moi, c'est une digression, mais quand nous défendons l'homme, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui défendent l'homme, y compris des athées, y compris des gens qui sont anti-chrétiens, des humanistes, qui défendent l'homme, mais nous ne savons pas toujours que quand nous défendons l'homme, nous défendons Dieu. Parce que l'homme étant l'image de Dieu, au fond, c'est par l'homme, par le visage de l'homme, que l'on peut connaître Dieu. Et s'il n'y a plus d'homme, si l'homme est déshumanisé, se pose vraiment la question de la connaissance de Dieu. Ce qui est le problème de la croix aussi. Hein, parce que sur la croix, le Christ a été torturé. Hein, les torturés sont défigurés. C'est le prophète Isaïe qui dit ça dans, je crois, c'est le chapitre 55 ou 57. Hein, quand il parle du serviteur souffrant, il dit il n'avait plus ni forme ni beauté, il n'avait plus de visage humain. Donc il y a des situations où l'être humain, au fond, ne ressemble plus à un homme. Tellement il est déshumanisé, tellement il est mutilé, tellement il est amoindri, dégradé, ou bien tellement il s'est dégradé lui-même par le péché, par les passions. Mais ça, c'est là aussi la position des pères orthodoxes. Je pense toujours à cette phrase de Saint-Séraphin de Sarov en particulier, c'est que l'être humain le plus dégradé reste toujours un homme. Parce que l'image en lui ne peut pas être extraite. L'être humain ne peut pas être amputé de son caractère d'image de Dieu. On ne peut pas lui arracher ça. On ne peut pas par une sorte d'opération extraordinaire, chirurgicale, monstrueuse, détacher de l'être humain cette image qui est en lui. Parce qu'elle n'est Elle n'est pas comme une image, c'est pas comme un tampon ou comme un tatouage. Vous savez, les gens qui sont tatoués, alors un jour ils ne veulent plus du tatouage, que faire? Alors qu'ils se font faire des opérations extraordinaires pour enlever ce tatouage. Mais l'image de Dieu, ce n'est pas un tatouage qu'on pourrait enlever par une opération désagréable. Il est ce qu'il est. Il est ce qu'il est, c'est-à-dire image de Dieu dans le monde. Et quand il est image de Dieu torturé, eh bien, c'est le Christ lui-même qui nous donne la réponse. C'est-à-dire que le Christ n'a pas cessé d'être Dieu sur la croix, en enfer, quand on le giflait dans les commissariats de l'époque, hein, il était toujours Dieu. C'est une chose assez extraordinaire, c'est que c'est quand même Dieu qu'on a giflé, c'est Dieu sur lequel on a craché, c'est Dieu qu'on a mis en croix, c'est Dieu qu'on a exécuté, c'est Dieu qu'on a condamné, ce qui est un sujet extrêmement, extrêmement vaste, mais qui veut dire qu'on ne peut pas dissocier anthropologie et théologie. Et que chaque fois qu'on parle de l'homme, on parle de Dieu, chaque fois qu'on s'intéresse à l'homme, on s'intéresse à Dieu. Et quand on se donne beaucoup de mal, nous les chrétiens, pour voir s'il est vraiment sage de manipuler les embryons, c'est parce que nous pensons profondément que si on s'attaque à l'homme, on s'attaque à Dieu. Donc, voilà, si on s'attaque à l'homme, on s'attaque à Dieu. Oui. Alors que, moi, je n'ai rien contre les animaux, j'aime beaucoup les chats, les chiens, les poissons, les oiseaux, etc. Mais la disparition de certaines espèces animales ou même la dégradation de certaines espèces animales sur Terre, si vous voulez, n'a absolument pas la même conséquence. Enfin, elle a une conséquence théologique, mais ce sont toujours des créatures de Dieu qu'on fait souffrir ou qu'on fait disparaître. Donc ça, quelque part, ça porte atteinte, disons, à la manifestation de Dieu et de la sagesse de Dieu dans son monde. C'est incontestable, hein, la destruction de la forêt amazonienne, je sais pas, la pollution de nos rivières, effectivement, porte atteinte à la révélation que Dieu peut faire de lui-même dans la création. C'est incontestable. Mais je pense que c'est sans proportion avec ce qui est fait à l'homme. Ce qui est fait à l'homme est bien directement fait à Dieu. C'est pour ça qu'effectivement, c'est Dieu qui est mis en croix et pas seulement l'homme Jésus, à la différence de ce que pensent certains prétendus chrétiens. J'en profite quand même pour le dire, il y a des personnes qui pensent être chrétiennes et qui pensent que, au fond, sur la croix, c'est l'homme Jésus qui est mort et que Dieu a ressuscité. C'est une expression vraiment ambiguë comme tout, c'est-à-dire qu'il y aurait un homme Jésus qui aurait été ressuscité par Dieu, mais ce n'est pas la foi chrétienne. La foi chrétienne, c'est que c'est le Dieu homme qui est sur la croix. C'est le Dieu homme qui est sur la croix parce que, justement, qui voit l'homme voit Dieu. Hein, on dit ça pour des proverbes, on dit qui voit tel père, tel fils, tel père, mais ici, si vous voulez, qui voit l'homme voit Dieu. Et c'est pour ça que Christos Yannaras dit ça, vous voyez. Il dit, donc l'être humain, donc, c'est une créature que la volonté de Dieu distingue de toutes les autres pour qu'elle soit image de Dieu dans le monde. Et il continue en disant ce qui signifie manifestation, apparition et représentation immédiate de Dieu. Vous voyez, donc c'est Christos Yannaras qui dit ça dans un livre qui est très intéressant, qui est pas trop long à lire, que, au fond, presque tout le monde peut lire. Je crois que c'est assez accessible, et qui s'appelle « La foi vivante de l'Église », publié au CERF à Paris en 1989. C'est pas 78 qui dit ça. Donc vous voyez, c'est vraiment très important ça. Manifestation, apparition et représentation immédiate de Dieu, ce que je disais précédemment. Hein, c'est ça, l'être théophanique de l'homme. Mais il est également la révélation du projet divin d'humanité et du vouloir créateur de Dieu. Il y a en Dieu, un vouloir qu'existe d'autres êtres que soi. Et ça, c'est l'amour. Ça, c'est ça qui est. C'est ça, on arrive en fait à la question de l'amour divin. C'est ce vouloir généreux. C'est ce vouloir généreux qui se manifeste à travers l'homme. Si vous voulez, l'homme ne manifeste pas Dieu comme une essence abstraite. Mais il manifeste un Dieu tel qu'il est, c'est-à-dire pas tel que nous pouvons le connaître, tel que dit saint Jean, un Dieu aimant, un Dieu généreux, un Dieu qui veut que d'autres que lui-même existent. Et donc de ça, l'homme est la révélation, justement, ce vouloir, manifestation du vouloir et du projet divin. Ça se voit par exemple dans la célébration du Saint-Baptême du Christ le 6 janvier, hein, qui est à la fois révélation de l'homme, révélation, ah oui, trinitaire, incontestable, donc une révélation théologique, hein, c'est une théologie. Je crois que Père Jean Bobok, dans sa thèse, emploie l'expression de théologie anthropologique, une expression comme ça, qui est tout à fait ce que j'essaie de dire maladroitement après lui, mais en fait il y a de ça, si vous voulez, que là le baptême du Christ, c'est bon là, c'est un mystère théologique, hein, au sens où c'est une théophanie effectivement trinitaire incontestablement, mais en même temps c'est une anthropophanie aussi, puisque il y a la révélation de l'homme que le Père appelle à ce moment-là fils bien-aimé, hein, et donc cette phrase-là, employée par le Père, elle est employée à propos du Fils de Dieu incarné, mais justement à propos du Dieu-homme. C'est toute l'amour paternel de Dieu qui se manifeste à ce moment-là. Donc vous voyez qu'en fait, l'intérêt, si je peux dire, du sujet, c'est que, d'une part, on peut dire « qui voit l'homme voit Dieu », et en même temps, c'est vrai que « qui voit l'homme », c'est-à-dire tel que ce que Dieu a voulu faire, et qui a une certaine autonomie quand même. L'être humain est caractérisé par une grande autonomie, c'est la possibilité même de s'opposer à Dieu par sa liberté, etc. Mais, donc il révèle cet amour de Dieu. Parce qu'au fond, l'amour, vous savez, on peut le rêver, on peut le manifester de toutes sortes de façons. On peut faire des cadeaux, on peut faire des bisous, on peut faire un dessin pour la maîtresse, pour ses petits camarades à l'école, etc. Mais on peut aussi manifester l'amour simplement en faisant exister un être qui n'existait pas. C'est le cas des parents, par exemple, qui conçoivent des enfants. C'est quelque chose d'extraordinaire parce que dans la conception des enfants, la conception biologique qui s'opère par l'amour des parents, il se manifeste justement l'amour, c'est-à-dire le vouloir qu'un autre que soi existe. C'est quelque chose qui est extrêmement profond. Donc l'homme, dans ce sens-là, il est la manifestation de la sagesse de Dieu, de la raison divine, de la pensée divine, mais il est la révélation de son amour. Et c'est pour ça que l'être humain, si vous voulez, n'est pas seulement comme disent certains philosophes, il n'est pas seulement là sur Terre de manière qui ne s'explique par rien, à cause du hasard ou de manière contingente, ou bon, l'homme pourrait ne pas être là. C'est vrai qu'il y a des philosophes, c'est surtout par exemple Jean-Paul Sartre et puis Husserl qui ont développé ça, l'idée que au fond l'être humain est une existence contingente. Il pourrait ne pas y avoir d'être humain sur Terre, ce ne serait pas grave. Le monde tournerait quand même. Ça n'a pas tellement d'importance. Que l'être humain disparaisse de la Terre, le monde resterait le monde. Mais ça, ce n'est pas le point de vue chrétien et biblique du tout. Du tout, du tout. Parce que c'est au contraire l'homme, par son existence dans la création, qui donne le sens à la création, parce que c'est à travers l'homme que se manifeste l'amour. Et dans la mesure où la création elle-même n'a de signification profonde qu'en tant que manifestation de l'amour de Dieu, c'est-à-dire de l'être profond de Dieu quand même, eh bien sans l'homme, il n'y a pas la clé de l'amour. Sans l'existence de l'homme, il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens dans ce monde. Pas de sens. Et quand je dis sens, c'est pas seulement dans la signification d'un sens intellectuel ou philosophique, mais il n'y a pas de sens, au sens il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'orientation, il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de profondeur dans ce monde, parce que s'il n'y avait pas l'homme, et il n'y aurait pas dans le monde une icône de l'amour de Dieu. C'est pas possible, c'est pas possible, vous voyez. Donc ça, c'est très très important aussi. Alors, les pères, c'est surtout Saint Maxime, là je vais revenir à Saint Basile plus loin, mais Saint Maxime plus tard dit que ce qui est remarquable dans l'être humain aussi, c'est le fait qu'il a une finalité qui n'est pas seulement la révélation de l'amour de Dieu comme tel, disons, qui est très évidemment une l'image même de cet amour de Dieu, mais qu'il a également la vocation d'accomplir un but, une finalité, d'aller vraiment vers un accomplissement de son devenir, et parce que ce devenir de l'homme parfait, en quelque sorte, la révélation, ça ne veut pas dire qu'elle ajoute quelque chose de la révélation, mais c'est que la révélation que Dieu fait de lui-même à travers l'homme, si l'homme arrive à son épanouissement par la ressemblance, il est clair que on connaîtra encore plus Dieu qu'on ne le connaissait par un homme moins évolué. Je prends l'exemple des saints, ou la mère de Dieu surtout, mais ce qui est très intéressant dans le cas des saints, c'est que justement chez eux, la révélation de Dieu, elle est vraiment plénière, puisqu'ils accomplissent la ressemblance. Donc si on dit, bon, qui voit l'homme voit Dieu, c'est vrai, mais en fait c'est surtout vrai pour les saints, c'est-à-dire pour ceux qui vont jusqu'au bout de l'accomplissement du devenir de l'homme. Au fond, les saints sont des personnes, pas seulement des êtres humains, mais sont des êtres humains devenus pleinement hommes. C'est assez important, ça, vous voyez. C'est pour ça que nous avons l'icône aussi, j'y reviens. L'icône est le signe dans nos églises et dans nos maisons, dans nos voitures, là où on veut bien les mettre, est le signe de l'accomplissement de l'amour de Dieu, de l'accomplissement du vouloir divin, de l'accomplissement du logos de Dieu, et de l'accomplissement de la révélation que Dieu fait de lui-même à travers l'homme. Et de l'accomplissement de la vérité, mais pas seulement de la vérité de Dieu, mais de la vérité de l'homme aussi. Vous voyez ? C'est la plaie. C'est pour ça que c'est assez important, c'était que plus. Parce qu'on a dans la théologie orthodoxe, ce thème de la divinisation, de la déification. Alors, c'est un certain terme qui est un peu ambigu, en fait. Parce qu'au fond, on dit, bah, alors il est devenu Dieu, donc il n'est plus homme. Mais en réalité, la pensée profonde de la théologie des Pères et de l'Église, c'est que plus tu es saint, plus tu es homme. Plus tu es déifié, plus tu es homme. Les êtres totalement déifiés ou divinisés, comme la Mère de Dieu, ce sont des êtres qui sont parfaitement hommes. Et ça, ça se voit d'abord dans le Christ. Par exemple, la fête, nous allons célébrer la semaine prochaine l'exaltation du Christ. On dit ascension, c'est pas un très bon terme, parce qu'ascension, ça fait un petit peu matériel, on a l'impression que le Christ grimpe simplement dans les cieux de manière spatiale. En fait, c'est plus le terme employé par les. En grec, c'est analepsis, ça veut dire exaltation, apothéose en quelque sorte, glorification, élévation glorieuse de quelqu'un, et en l'occurrence du Fils de Dieu. C'est le même terme, si je ne me trompe pas, c'est le même terme qui est employé à propos de la dormition de la Mère de Dieu. Donc dans les deux cas, l'être humain est exalté. Il est exalté, mais il est exalté, alors on dit par exemple, à la droite du Père, c'est-à-dire que l'humanité trouve toute sa gloire, mais elle trouve toute sa gloire parce que justement elle est achevée, elle est dans la plénitude d'elle-même, et l'humanité qui est dans la plénitude d'elle-même, elle est dans la plénitude de la révélation de la volonté de Dieu et de l'amour de Dieu. Donc finalement, notre vie, nos existences humaines, ont comme signification profonde d'être tous les jours la révélation de Dieu. Nous sommes des révélateurs de Dieu, et c'est ça notre mission, justement dans le monde, pour parler du monde, hein, l'action chrétienne dans le domaine social, dans le domaine caritatif, dans le domaine scientifique, dans le domaine de la culture, ce n'est pas une action autonome de quelques génies ou quelques philanthropes à qui on va donner le prix Nobel, etc., ce qui est encore que ça soit très bien, mais c'est beaucoup plus que ça. Le fait de s'occuper du prochain, d'aimer le prochain, ça veut dire qu'on est dans la situation de manifester l'amour que Dieu a pour l'homme. Nous comportons comme des signes de l'amour de Dieu, comme des icônes de l'amour de Dieu. Mais ça, c'est extrêmement important aussi, parce que ça donne tout son contenu à l'existence humaine. Alors, bien sûr, on peut dire, mais alors au fond, l'être humain n'a rien d'autre à faire que de manifester Dieu. Mais oui et non. Mais c'est-à-dire que, je reviens à ce que je disais précédemment, plus tu es homme, plus tu ressembles à Dieu, plus Dieu se manifeste par toi. Mais en même temps, plus tu es homme. C'est-à-dire qu'il s'agit bien d'arriver à une plénitude d'humanité. Et la déification, la divinisation n'est pas une déshumanisation. Elle est au contraire un accomplissement de l'être humain et de toute la révélation qui se fait par lui. Donc, pour reprendre ça, si vous voulez, donc l'homme s'accomplit en se révélant comme homme, devenant ce qu'il est, dans la vérité de son logos, c'est-à-dire de sa raison profonde, et qui est également la vérité du Logos avec un grand L de Dieu. Cet accomplissement étant toujours l'accomplissement du dessein de Dieu lui-même. Donc, plus tu t'accomplis comme homme, plus tu accomplis le dessein de Dieu, plus Dieu se révèle par lui-même et plus Dieu est connu par toi. L'homme dans son devenir est simultanément révélation de sa propre essence humaine créée, ça c'est vrai, non pas éternelle en elle-même, mais prévue dans son Logos éternel, et révélation de l'unique vouloir de la Trinité. C'est pourquoi le Fils de l'homme appelle « frère », entre guillemets, ceux qui font la volonté du Père, en Matthieu 12, 50, c'est-à-dire qui s'accomplissent comme êtres humains dignes de ce monde. La fraternité, puisqu'on peut parler de fraternité, la fraternité, ce n'est pas une affiliation simplement sympathique sur la base de droit ou de devoir juridique de la société civile, mais la fraternité, c'est l'accès à une même manifestation de la volonté du Père, à une même révélation de l'amour du Père. Nous sommes frères parce que nous sommes frères dans la révélation de Dieu. Nous sommes frères en tant que par Dieu, par nous, le Père peut se révéler comme il le souhaite ardemment. Alors justement, ça, donc, tout ceci veut dire que l'existence objective de l'homme n'est pas contingente. Il est évident que si on commence à parler de l'homme comme nous en parlons ici, on s'aperçoit que son existence est indispensable, voulue. Je dirais pas nécessaire, parce que le monde n'est pas gouverné par la nécessité, mais elle est incontournable quand même, et irremplaçable, l'être humain irremplaçable, même si je peux dire, même Dieu lui-même ne le remplacerait pas, puisque Dieu comment dire, a l'homme comme révélation de lui-même. C'est ça que fait Dieu. Vous allez me dire, mais alors c'est purement une instrumentalisation de l'homme. L'homme serait simplement l'instrument d'une volonté que Dieu, d'une révélation que Dieu veut faire de lui-même. Oui et non, il se trouve que cet instrument, si je peux dire après ce mot-là, est infiniment aimé, et que dans l'être humain, non seulement Dieu se révèle comme amour, mais il aime l'homme. Donc l'être humain est la révélation de l'amour du Père, parce qu'il est aimé de Dieu. Donc c'est beaucoup plus qu'une instrumentalisation de l'homme, c'est vraiment faire de l'homme une sorte de sacrement de la présence de Dieu dans son monde, le sacrement de l'amour de Dieu. C'est le signe même, l'icône même, tout à fait en deçà ou au-delà de ce qui serait une simple instrumentalisation de l'homme au bénéfice de la révélation divine. Dieu n'utilise pas l'homme simplement pour se révéler comme par l'effet d'un caprice divin, Dieu voulant absolument se révéler. Ben oui, mais il veut se révéler à l'homme aussi. Se révéler, donc fabriquerait l'homme pour avoir un mode de révélation. Ça, je crois que c'est vraiment, ce serait pervers de penser, c'est vraiment une calomnie à l'égard de Dieu, surtout une incompréhension complète du sens profond de l'existence humaine. Bon, donc cette existence humaine n'est pas contingente, parce que, au fond, comment aurait-il pu ne pas exister l'être humain? Lui en qui la divine Trinité révèle tout son amour, lui qui de toute éternité est voulu par Dieu. Mais je dis bien, on n'est pas dans l'ordre de la nécessité, on va dire que c'est la logique de l'amour. Et je reviens un petit peu à l'exemple des parents. Là aujourd'hui nous avons, avec une famille proche, accompli les funérailles d'un petit enfant. Et en fait, c'est que la souffrance des parents, parce que ça m'a fait beaucoup réfléchir, ça quand même, la souffrance des parents n'est pas, c'est pas seulement une souffrance émotionnelle, mais je pense que le fond du problème, c'est que l'enfant qui disparaît, qui se retire, qui meurt, qu'on met dans un cercueil, qu'on met dans la terre, etc., il disparaît en tant que manifestation de l'amour des parents. Donc les parents se trouvent dans une situation terrible, hein, puisque celui en qui, l'être en qui se manifestait leur amour, l'être qu'ils aimaient, mais l'être en qui se manifestait le meilleur d'eux-mêmes en tant que créature capable d'aimer, cet être n'est plus. L'icône, l'image de leur amour mutuel, de leur amour pour l'enfant, mais de leur amour pour le monde, leur amour pour les autres enfants, cette image-là, unique, irremplaçable, n'est plus. Et c'est pour ça que les parents aujourd'hui, comme beaucoup de familles le font maintenant, sur le cercueil, ils ont mis la photo du petit garçon. Mais c'est, que je le dis, c'est pas seulement pas seulement affectif au sens très 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 psychologique du terme, c'est que ils ont absolument besoin, eux, si bien en tant que créatures aimantes, ils ont absolument besoin d'attester que cet être en qui se manifeste leur amour n'est pas disparu, même s'il est devenu invisible, même s'il s'est retiré, même s'il est enterré, enfermé dans une boîte, etc. Et il continue à exister quelque part comme manifestation de cet amour. Donc oui, ce sont des choses extrêmement importantes. Et donc c'est pas du domaine de la nécessité. Mais c'est la logique de l'amour, c'est qu'un amour qui ne peut pas se dire, un amour qui ne peut pas se révéler, un amour qui ne peut pas se montrer, un amour qui ne peut pas s'offrir, un amour qui ne peut pas se reconnaître lui-même, se voir lui-même, en quelque sorte, se connaître lui-même, cet amour-là est un amour qui souffre, vous voyez. Alors vous allez me dire, mais Dieu n'avait pas besoin de ça. Ben ça, c'est vrai, parce que de toute façon, Dieu ne fonctionne pas par le besoin. Dieu n'a besoin de rien, Dieu n'est gouverné par aucune nécessité, Dieu ne désire pas, Dieu n'est pas dans le manque affectif. Oui, c'est, on ne peut pas comparer Dieu avec certains de nos contemporains qui ont absolument besoin d'avoir un enfant pour exister, qui sont extrêmement intéressants, qui s'apportent bien à notre sujet, enfin qui domènent du manque. En Dieu, il n'y a pas de manque, c'est simplement la logique interne de l'amour que de se manifester. Et ce n'est pas une nécessité. Pourquoi ce n'est pas une nécessité? Parce que Dieu, en lui-même, comme Père, Fils et Saint-Esprit, manifeste et se manifeste à lui-même largement l'amour qu'il est. Puisque le Père aime le Fils aime le Père, l'Esprit aime le Fils et le Père. Vraiment, donc la manifestation interne de l'amour de Dieu a lieu largement et de manière déjà plénière en elle-même dans la divine Trinité. Donc il n'y a aucun besoin de la part de Dieu. Elle n'est pas du tout dans un contexte quand même qui soit le même. Alors qu'effectivement, du côté des humains, on sait qu'on voit des gens qui éprouvent un mal d'enfant. Hein, c'est la question très, très, très intéressante, hein, de la réclamation de certains couples d'hommes ou certains couples de femmes à notre époque réclamant de pouvoir avoir des enfants, ou adopter des enfants, ou concevoir des enfants, ou fabriquer des enfants de manière absolument aberrante. Enfin bon, on peut dire ce qu'on veut, on peut être choqué par ces choses-là, mais dans le fond, il y a quand même quelque chose qui nous intéresse, c'est-à-dire que l'être humain, à l'image de Dieu, veut pouvoir aimer quelqu'un d'autre que lui-même pour s'y manifester en tant que créature capable d'aimer, pas seulement pour avoir quelqu'un à aimer, mais c'est pour se manifester lui-même dans sa capacité d'amour. Et dans ce sens-là, ça ressemble quand même à Dieu quelque part. Mais c'est ça, pour faire extrêmement attention à ce qu'on dit actuellement, et c'est pas seulement de stigmatiser ces personnes, si vous voulez, mais dans beaucoup de cas, le cas de l'adoption, par exemple, c'est un cas extrêmement important, parce que le cas de l'adoption, c'est j'adopte un enfant que je n'ai donc pas conçu, qui n'est pas issu de mes propres entrailles, mais j'adopte un enfant pour pouvoir lui manifester mon amour et me manifester en lui et à travers lui et pour lui comme moi-même être capable d'amour. Donc c'est pour ça aussi que l'existence de l'homme sur Terre n'est pas contingente, de même que l'existence d'enfants dans les familles et sur Terre n'est pas contingente non plus. Mais que là aussi, ça a été dit, on ne peut pas instrumentaliser les enfants. Les enfants ne sont pas simplement des peluches ou des joujoux pour des parents qui ont un manque affectif, mais la place de l'enfant est d'être la manifestation de l'amour dans le monde. C'était très net aussi dans les funérailles de ce petit garçon ces jours-ci. En fait, c'est une icône de l'amour dont nous avons besoin, nous, parce que nous les hommes, nous fonctionnons par le besoin, et une icône que nous voulons maintenir dans notre prière et dans notre espérance aussi. Donc, l'être humain et l'être de l'homme par rapport à Dieu ne dépend d'aucune nécessité et à plus forte raison d'aucune fatalité. L'existence de l'homme est produite dans la liberté absolue de l'amour divin, et dans ce sens, elle n'est le produit d'aucune cause. Ça, c'est très, très important, ça, parce que l'agir divin, lui-même, n'est pas déterminé par une cause. La création, de ce point de vue-là, ne s'explique pas, parce qu'il n'y a pas de causalité à l'origine de l'existence créée. L'agir divin, donc, n'est pas déterminé. Il est l'objet de la glorification émerveillée des anges et des hommes, mais il ne peut pas répondre à la question « pourquoi ?». Parce que la question « pourquoi ?» ne s'adresse pas à l'amour. C'est toujours drôle quand on dit à quelqu'un « pourquoi aimes-tu un tel ou une telle ?» C'est une question qui est absurde, parce que l'amour n'a pas de « pourquoi ?» Il est dans la logique de lui-même. Quand on commence à trouver des explications et des raisons pour lesquelles on aime l'un ou l'autre, on est en train de s'éloigner de l'essence de l'amour. Donc, l'existence de l'être humain, cette existence qui révèle Dieu et son amour, comme je le dis, ne dépend d'aucune loi. C'est vraiment, et c'est là aussi, si vous voulez, tout ce qu'on peut, même les lois de la création, par exemple, l'évolution des êtres, la transformation des espèces, tout ceci qui est tellement intéressant, dans la mesure où ce sont des lois cosmiques, nous ne pouvons pas accepter, nous, chrétiens ou juifs, parce que c'est la même chose, hein, nous ne pouvons pas accepter que ça va expliquer l'arrivée de l'homme. Moi, en tant que chrétien, je ne peux pas accepter que l'existence de l'être humain soit l'objet d'une explication, et la plus forte raison qu'elle soit expliquée par des lois cosmiques. Donc, ça veut dire que l'être humain est soumis au cosmos, soumis aux lois au cosmos, qui ne doit son existence au fond qu'à la logique des lois créées, des forces créées, et qui est, au lieu de devoir son existence à la logique de l'amour qui est pure gratuité et qui n'est pas une loi. L'amour n'est pas une loi. Donc il y a des raisons profondes quand nous n'acceptons pas l'anthropologie répandue, qui est au fond globalement une anthropologie évolutionniste. Nous ne l'acceptons pas pour cette raison-là, parce que nous ne pouvons pas accepter que l'être humain doive son existence à une loi, à une causalité quelle qu'elle soit. Alors justement, Père Stanilowé dit ça, il dit « La relation entre nous et Dieu Trinité est une relation d'amour, non déterminée par une loi. » Toujours dans l'image immortelle de Dieu. Et elle n'a cette existence, elle n'a sa raison d'être. Mais quand on apprend l'expression raison d'être, c'est un langage pris chez Saint Maxime le Confesseur, c'est le fameux logos, c'est-à-dire les raisons. Toutes les créatures ont une raison, ont une rationalité, mais ce n'est pas une cause. Pas une cause. Elles n'ont leur raison d'être, l'être humain n'a sa raison d'être que dans le logos du Père, la logique divine, inexplicable et incompréhensible, qui est celle de l'amour et de la liberté. Logique de la Trinité qui est vie et amour en toute plénitude. Et c'est pour ça que Christos Yannara, justement, je lis beaucoup aussi les textes de ce théologien, souligne que la création de l'homme est un acte exceptionnel de Dieu. Dans le même ouvrage, page 77, c'est, comme j'en dis tout à l'heure, ce n'est pas un acte qui s'inscrit dans la succession, dans la série des actes divins. Hein, l'être humain, en tant que révélation de Dieu, il ne s'inscrit pas dans une série d'actes successifs de Dieu. Il est absolument exceptionnel. Il est exceptionnel par beaucoup de raisons, pas seulement parce que nous avons dit précédemment, c'est-à-dire le fait que Dieu ne le crée pas, mais le modèle. Il n'est pas seulement exceptionnel parce que Dieu, dans ce cas-là, emploie la première personne du pluriel et donc se manifeste comme triunité, mais il est exceptionnel également dans le fait que à cette créature seule, Dieu donne son image, la capacité d'arriver à la ressemblance, et il est exceptionnel aussi par le fait que à cette créature seule, Dieu communique son souffle, c'est-à-dire les arts de son esprit. Donc c'est tout à fait exceptionnel. Alors ça, c'est un chapitre important que je n'ai pas encore abordé ce soir, je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire. Il y a dans l'aspect théophanique de l'homme, le fait que l'homme révèle Dieu, que non seulement l'homme est révélé par Dieu, parce qu'il révèle, Dieu y révèle tout son amour, disons. Mais l'homme révèle Dieu, il révèle la paternité de Dieu, c'est vrai, l'icône de la paternité de Dieu dans ce sens-là, c'est pour ça qu'il est appelé aussi fils, il est appelé fils, mais il est la révélation du fils lui-même, du logos, mais aussi il est la révélation de l'esprit. Enfin, c'est très important que l'être humain, donc, il est pas seulement théophanique, mais il est pneumatophanique, logophanique, si on veut jouer avec les mots, c'est très important aussi. Dans un comportement humain, plus l'être humain est rempli du Saint-Esprit et dans la situation de manifester justement la grâce du Saint-Esprit, plus il est justement homme aussi. Donc ça c'est important, c'est-à-dire que l'idée que qui voit l'homme voit Dieu peut s'articuler, si vous voulez, suivant aussi les personnes divines. Plus qui voit l'homme voit le Fils de Dieu, dans le Fils de l'homme on voit le Fils de Dieu, qui voit l'homme voit quand même le Père, parce qu'il voit la révélation de l'amour du Père, même si le Père n'est pas vu directement, il est vu à travers l'homme, et qui voit l'homme, voit l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire la manifestation de ce souffle initial dans sa plénitude, surtout à partir de du Saint Baptême. Le baptême. Alors, c'est pour ça aussi que dans ce processus de révélation et de l'homme et de Dieu, il faut que, pour que le vouloir divin soit en plénitude manifesté, il faut que la liberté humaine accepte son propre être et sa propre existence. Ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que le fait que l'être humain puisse dire oui à lui-même est fondamental, parce que c'est par là qu'il entre en coopération avec le projet divin. Ce qu'on appelle la vie en Christ, qui est la fameuse expression de saint Nicolas Cabasilas, reprise par saint Jean de Kronstadt, ce n'est pas autre chose que justement l'acceptation en toute liberté du don divin de l'existence humaine. La grâce de recevoir de Dieu sa propre humanité. La grâce de vouloir ce que Dieu veut en devenant homme. Une manifestation du charisme de l'obéissance. Alors seulement, l'homme n'est pas seulement théophanique, mais anthropophanique, quand il s'accepte comme homme en toute liberté et en tout amour. Et ça, c'est ça la vie de fils. Vous savez, c'est une question fondamentale. Qu'il y a des êtres humains, il y a un très grand écrivain français qui est François-René de Chateaubriand, que j'aime beaucoup, c'est un immense écrivain français. Il dit, comme beaucoup, enfin, c'était pas le seul à dire ça, mais enfin, il a dit un peu au nom de la génération romantique à laquelle il appartenait, il dit « Ma mère m'infligea la vie ». Alors cette phrase-là, qui est extrêmement importante, elle traduit justement le refus d'exister, et ça peut être, je sais pas comment dire, pathogène, je pense, un créateur de névrose. Peut-être qu'une bonne partie des personnes qui sont malades dans les hôpitaux psychiatriques sont justement des personnes qui traduisent leur refus, leur non à la propre humanité, leur non à leur existence, leur non à ce qu'ils sont. Ça introduit une question qui est très importante, qui est traitée actuellement. Vous savez, les philosophies qui se répandent, même dans nos écoles, on explique que... au fond, être homme ou femme, c'est un choix. Et je pense que c'est vrai, d'une certaine façon, cette théorie du genre, elle a des aspects extrêmement intéressants. C'est-à-dire que être homme et être homme ou femme, c'est quelque part dire oui à ce que Dieu nous donne, à l'humanité que Dieu nous donne. Et nous pouvons ne pas dire oui à l'humanité que Dieu nous donne. Nous voudrions ne pas exister, ça peut conduire à des tentatives suicidaires. Nous pouvons ne pas accepter la condition que Dieu nous donne, qui est quelquefois douloureuse. Vous savez, recevoir de Dieu une humanité blessée par un handicap de naissance, par exemple, c'est pas si facile. Dire oui à sa condition d'handicapé. Moi, j'ai eu une élève comme ça qui était handicapée de naissance, mais ce qui était extraordinaire chez elle, c'était une petite famille chrétienne, des gens très, très généreux, très, très gentils, c'est qu'elle disait oui. Elle disait oui à l'humanité qui était la sienne, et qui en l'occurrence est une humanité fortement handicapée, puisque à la suite d'un accident de naissance, elle était totalement dépendante. Je lui ai posé la question. Parce que pour moi c'est une question centrale qui se rapporte à ce sujet. Je lui avais dit, ça s'appelait Isabelle, je me rappelle très bien. Il dit, mais au fond, Isabelle, vous auriez peut-être préféré qu'on vous fiche la paix et puis qu'on vous fasse pas vivre, puisqu'on avait posé la question aux parents. On avait dit aux parents, vous savez, votre enfant, avec ce qui s'est passé à la naissance, elle va être très, très, très handicapée. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Vous la gardez? Vous la gardez pas? Est-ce qu'on la fait vivre ou est-ce qu'on n'insiste pas? Et les parents avaient dit, si, nous, on assume. Mais donc c'est un événement extraordinaire, ça. Parce que ça veut dire que l'existence de cette personne est vraiment la manifestation du vouloir des parents, mais un vouloir au deuxième degré, parce qu'ils l'avaient voulu en la concevant, enfin, j'espère, dans le meilleur des cas. Mais ils la revoulaient, si je peux dire. la refoulait en la choisissant et en la jugeant telle qu'elle était, c'est-à-dire un enfant qui serait handicapé. Et puis elle, quand on lui posait la question, elle avait 18 ans quand je lui ai posé la question, quand je lui ai dit, ben, tu aurais préféré qu'on te fiche la paix, qu'on ne te fasse pas vivre, elle a dit, ah ben non, pas du tout, pas du tout, parce que moi je suis ravie d'être vivante. Et quand c'est quelqu'un qui est totalement handicapé et dépendant qui dit ça, c'est assez extraordinaire. C'est un acte de liberté de dire oui à l'être qu'on a, à l'existence qu'on a. Et c'est pour ça que la histoire de la théorie du genre me fait beaucoup réfléchir, parce que je pense qu'effectivement, dans le domaine de la sexualité, il y a un peu la même chose. La même chose, c'est qu'il y a un oui, je dis oui au fait d'être homme, oui au fait d'être femme. Il y a un choix, mais oui, il y a un choix. Il y a un choix. Là, je pense que l'adolescence, par exemple, l'adolescence est un moment très important de choix où on peut choisir, on est amené à choisir ce qui nous est donné. Mais s'il n'y a pas ce choix, je reviens à mon sujet, si l'être humain ne dit pas oui au don que Dieu lui fait de lui-même, enfin, eh bien, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Il ne grandira pas. Son devenir ne s'accomplira pas. Et c'est le sens de toute la vie. Donc, le sens de notre vie, c'est quand même ça, c'est de dire oui. C'est pour ça, souvent, nous les prêtres, je pense, nous disons ça dans le cadre de la confession, nous avons des personnes très souffrantes, très malheureuses, qui s'en sortent pas, leurs difficultés, nous essayons de les aider en les aidant à dire oui à leur vie, à aimer leur vie. Mais ça, c'est pas uniquement une résolution, à partir de demain, je serai content. Alors on est vendredi, demain c'est samedi, à partir de samedi matin, je serai content d'exister. Ça, c'est des bonnes résolutions. Non, mais il y a une façon de prier. Il y a une façon de prier, c'est de bénir Dieu, gloire à toi pour la vie que tu me donnes, gloire à toi Seigneur Jésus, gloire à toi. D'avoir une prière de louange, une prière de glorification, qui est une manière pas seulement d'accepter passivement sa condition humaine, bon, qui est lourde, qui est un fardeau, mais de l'accepter activement, de dire oui à la vie qu'on a. Alors, ça ne veut pas dire qu'on exclut les changements, qu'il ne faut pas aider les handicapés à s'adapter, qu'il ne faut pas soigner les malades, etc. Bon, c'est pas ça que je veux dire. Hein. Mais dire oui. Et ça, c'est une situation extrêmement importante parce que c'est l'acte de liberté qui se connecte à la liberté divine et qui fait qu'on va pouvoir effectivement avoir une existence théophanique. Alors qu'autrement, elle ne le sera pas. Elle le sera, mais à un stade tout à fait, réduit. Enfin, on n'arrivera pas à devenir des saints, on n'arrivera pas à la déification, on n'arrivera pas à la ressemblance de Dieu, on n'arrivera pas à être des êtres théophaniques si on ne dit pas oui à Dieu pour la vie qu'on a et l'existence qu'on a. Mais ça peut aller très loin. Moi, j'ai beaucoup réfléchi à ça, à la question de l'obéissance, ce qu'on appelle l'obéissance. L'obéissance, ce n'est pas une obéissance militaire, une soumission à un supérieur, une autorité supérieure. L'obéissance, c'est essentiellement aimer la volonté de Dieu telle qu'elle se manifeste pour nous. Et ça, c'est ce que le Christ a montré sur la croix. Quand il a dit que ta volonté, pas la mienne, soit faite, il a montré le chemin de l'homme. C'est qu'il a montré que l'être humain se réalise de cette façon-là en voulant ce que Dieu veut, puisqu'à ce moment-là, il a dit ça en tant qu'homme, il a exprimé la volonté humaine aimant la volonté divine. Il a montré que le chemin de l'homme, c'est d'aimer la volonté divine, parce que la volonté divine est de faire de lui une icône ressemblante. Alors c'est vrai que c'est incompréhensible pour la logique humaine, je regarde un peu l'heure, autre chose que je voudrais introduire, il est incompréhensible pour la logique humaine que l'existence de l'homme et de toute créature d'ailleurs n'ait d'autre raison d'être que l'amour. C'est incompréhensible, parce qu'on cherche toujours les pourquoi évidemment. Il est incompréhensible également que ce projet pour sa créature, projet à la fois de création et de réalisation, ne soit pas pour elle une détermination absolue. Ça, nous avons du mal à comprendre ça. Nous avons du mal à comprendre que l'existence n'est pas une détermination. C'est pour ça que quand Chateaubriand disait « Ma mère m'infligea l'existence », il a l'impression qu'on l'a obligé à exister, c'est-à-dire qu'il a vécu son existence comme détermination par le vouloir d'un autre. Il y a des gens aussi qui vivent leur existence comme fatalité. On dit « Ah ben c'est la fatalité », on emploie le mot, pas les chrétiens, c'est pas un langage chrétien, mais En langage non chrétien, on emploie ce mot-là. L'idée qu'au fond, c'est une nécessité. Les Grecs, par exemple, pensaient que le monde était gouverné par la nécessité. Les Latins, par le fatum, la fatalité. Donc, il n'y a pas de liberté là-dedans. Donc, l'existence est vécue à ce moment-là comme un fardeau, comme un accident aussi. Quelqu'un m'a demandé aujourd'hui ce que je pensais d'Émile Cioran. On me dit que c'est un des plus grands philosophes roumains. Je pense qu'il y a d'autres très grands philosophes roumains. Et je pense qu'Émile Cioran, il parle de la chute dans le temps et qu'il a une conception de l'existence tout à fait pessimiste, tout à fait antichrétienne, parce qu'il considère l'existence comme un mauvais accident, comme un malheur. Mais tant que je considère mon existence comme malheur, je ne suis pas chrétien. Je ne peux pas devenir un saint. Et jamais, jamais, jamais un saint ne considère que son existence est un malheur. Il n'y a pas d'accident. Il n'y a pas d'accident. Il considère son existence comme le vouloir de Dieu. Et ça rejoint profondément nos réflexions anthropologiques sur l'embryon, sur la contraception, sur l'avortement, sur les bébés qu'on fabrique en éprouvette, sur tout ce qui se manipule à notre époque. C'est que nous posons la question en tant que chrétien, en tant que prêtre, en tant que théologien, qu'est-ce que Dieu veut? Et nous pensons, c'est ce que me disait Père Jean Bobok l'autre jour, et nous pensons qu'un enfant venu à l'existence, même par des moyens complètement artificiels et aberrants, comme ceux qu'on voit ou qu'on nous propose, s'il existe, il est lui aussi la manifestation du vouloir divin. Et c'est pour ça qu'on n'avorte pas. Désolé d'insister là-dessus. La question de l'avortement, ce n'est pas un problème moral, c'est un problème théologique. C'est un problème anthropologique, il faut bien comprendre ça. Hein. C'est qu'en fait, une existence est voulue par Dieu. Alors je sais, on connaît les objections, il y a dans certains lieux des êtres qui sont arrivés à l'existence de manière complètement monstrueuse, enfin, et qui finalement continuent à exister, mais d'une manière végétative, année après année, dans des centres dont ils ne peuvent pas sortir. Bon, je pense que nous n'avons pas réponse à tout. Est-ce que les existences aussi loin de l'idée qu'on se fait de l'homme, est-ce que les existences sont quand même voulues par Dieu? Bon, nous n'avons pas réponse à tout. C'est vrai que ça peut quand même poser un problème. Il y a peut-être des situations limites où les réponses auxquelles nous sommes habitués ne tiennent plus. Moi, je dois dire avoir vu en tant que prêtre dans certains hôpitaux des êtres qui étaient nés très abîmés déjà ou très incomplets et qui avaient été maintenus en existence et qui pouvaient avoir 30 ans ou 40 ans, mais bon, c'était des êtres humains, je pense quand même, mais c'est vrai qu'il peut y avoir quand même des cas terribles. Bon, donc il faut accepter aussi de réfléchir à cela. Enfin, on va dire que quand même, globalement parlant, cette affirmation qu'une existence humaine est l'expression de la volonté de Dieu et l'expression de l'amour de Dieu, ça, c'est une affirmation à laquelle nous tenons, et nous ne tenons pas pour nous crisper systématiquement sur les positions chrétiennes, mais nous y tenons parce que là est le sens de l'être humain. Donc il ne faut pas lâcher ça, parce que si tu lâches ça, tu lâches l'homme, et donc l'être humain ne sera plus qu'une créature parmi les autres. Il faut quand même savoir que les enjeux anthropologiques sont des enjeux fondamentaux qui entraînent toute notre vision du monde, toute notre conception de ce monde et du monde qui vient. Ah bon, effectivement, c'est quand même incompréhensible hein, que cette existence ne soit pas... Elle est indéterminée. Pourquoi? Parce que l'amour ne détermine pas. L'amour n'est déterminé par rien, et l'amour ne détermine pas, il est inconditionnel, et il est inconditionné, et il est inconditionnant. L'amour est vivifiant, il n'est pas conditionnant. Alors là aussi, ce sont tout à fait des questions pour notre époque. Ça, quand nous entendons certains de nos ministres dire qu'ils veulent arracher nos enfants le plus tôt possible à la famille pour les arracher au déterminisme de ceci, de cela, et bien entendu de la religion, je ne sais pas très bien de quoi on parle, parce que finalement on ne peut pas non plus arracher un enfant au milieu familial, si ce milieu familial est l'expression de l'amour, parce que l'amour n'est pas un déterminisme, l'amour, un milieu familial qui serait une famille classique dans laquelle se déploie l'amour des parents et donc l'amour de Dieu parmi les parents, n'est pas un amour, n'est pas un milieu qui détermine l'enfant. C'est un milieu où l'amour fait éclore l'enfant, l'amour vivifie. Donc on ne va pas arracher un enfant à un milieu vivifiant, et puis pour l'arracher, pour le mettre où ? Lui donner quoi à la place ? Probablement un autre déterminisme qui sera beaucoup plus déterminant, beaucoup plus conditionnant que l'amour vivifiant des parents et que l'amour vivifiant de Dieu tel qu'il est exprimé par notre sainte religion, justement. Parce que là, justement, la religion, c'est pareil. Les défauts de la religion, c'est quand la religion se transforme en conditionnement formel, sociologique, moralisant, moralisateur, met des lois, enferme les gens, etc. Mais ça, c'est des sous-produits de la religion, c'est des contrefaçons de la religion. La religion chrétienne, c'est pas ça. La religion chrétienne, c'est un milieu absolument épanouissant pour l'être humain, parce que c'est justement le milieu où l'amour de Dieu se déploie. Il se déploie à partir du baptême. Donc, vous voyez, c'est vrai que c'est incompréhensible qu'il n'y ait pas de... Parce qu'au fond, ça nous satisferait du point de vue logique que l'être humain soit déterminé par des causes, par des pourquoi, par des lois. Au fond, ça satisferait notre logique. Eh bien, nous n'avons pas cette satisfaction-là. Nous sommes devant l'abîme de l'amour divin. Et finalement, l'abîme de la liberté absolue. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Quand Saint Paul dit que le Seigneur nous a prévus conformes à l'image du Fils, ça n'implique pas un déterminisme. Hein, il y a en grec un mot qui est très important, qui est employé par Origène aussi, par Jean d'Ancel, qui est le verbe pro-orizo. Je vous demande pardon de mettre du grec dans le grand, mais si, c'est parce que vous reconnaissiez le mot. Dans horizon, il y a horizon éventuellement, quand même. Alors qu'est-ce que c'est qu'un horizon ? C'est le projet qu'on a, ce qu'on a devant soi et qu'on cherche à atteindre et qui nous éclaire aussi, parce que l'horizon, sauf quand il est totalement bouché par la météo catastrophique de l'île de France, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais souvent l'horizon, il nous éclaire. Quelqu'un qui marche sur la route, qui va vers l'horizon, il a le visage lumineux, souvent, de la lumière qui vient de cet horizon. Il tend vers quelque chose, il marche, il se déploie, il exerce sa liberté, il se fatigue, il fait des projets, il prend son GPS, je ne sais pas ce qu'il fait, mais c'est un milieu, l'horizon est un espace pour la créativité de l'être humain et pour son illumination. Mais l'horizon n'est pas une détermination, c'est pour ça qu'on ne peut pas... On parle, disons, de projet divin, mais le projet divin est un projet, c'est un espace de liberté. C'est vrai qu'il faut faire attention, par exemple, il paraît que dans le cas où les parents ont un projet trop déterminé pour leur enfant, c'est bien un projet très déterminant, tu seras polytechnicien comme ton père, ou tu feras ceci, ou tu feras cela, ou tu ne feras pas cela, donc le projet des parents devient effectivement contraignant, mutilant. Mais pas trop comparer non plus Dieu avec les parents, c'est quand même très 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 différent, les ressemblances sont approximatives. Le projet de Dieu est un projet vivifiant, est un projet libérateur, il n'est pas un projet déterminant. Voilà. Le dessein, qu'on pourrait appeler aussi le pronostic prééternel du Père, dont l'être humain est la révélation, et il appelle l'obéissance libre, l'acceptation libre du projet d'humanité que le Père a pour nous. L'obéissance dans le même amour, si nous nous ouvrons, nous aussi, à lui avec l'amour qui reçoit sa puissance de son amour. C'est Saint Jean Damascène qui dit ça, dans une homélie sur la Dormition. Vous voyez, ça c'est très très intéressant. Je relis la citation. Il y a un épanouissement si nous nous ouvrons nous aussi à lui, c'est-à-dire à Dieu, avec l'amour qui reçoit sa puissance de son amour, à lui, à Dieu. Donc le projet antérieur à tout temps qu'a Dieu pour la créature humaine et qu'il manifeste dans la créature en la créant n'est pas une prédétermination ou une prédestination. Alors ça, c'est la position orthodoxe est très 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 ferme là-dessus. L'idée de prédestination implique un contresens complet de ce que peut être la manifestation de l'amour de Dieu dans sa créature. Donc c'est ce projet qui est une vocation prééternelle, parce que l'amour véritable ne détermine pas. Et pour approcher la contemplation de ce mystère, comme pour nous approcher de tout mystère, particulièrement de celui de l'incompréhensibilité divine, il faut nous purifier d'une conception psychique de l'amour. L'amour divin est l'horizon, le projet inconditionné et inconditionnant, selon lequel peut s'accomplir l'être créé. Donc ça consiste... Ça ne crée en aucun cas une contrainte, ça crée une possibilité, ça crée une liberté. L'être humain peut s'accomplir de cette façon-là en fonction de l'acceptation libre du vouloir divin qui est appelé obéissance. Alors, je voudrais donner, conclure en fait, dire que ceci se rapporte principalement au mystère de la personne. C'est, dont on parle beaucoup, un peu à tort et à travers, parce qu'on confond toujours personne, personnalité, individu, etc. Et je voudrais dire que le mystère de la personne, c'est justement le mystère de cette identité capable de liberté, capable de oui, capable d'accomplissement, et capable aussi de non-accomplissement. Capable de dire non à Dieu, capable de désobéir, c'est une individualité libre en face de l'autre individualité libre qu'est la personne de Dieu. C'est pour ça qu'on emploie le terme de personne et pour la divinité et pour l'humanité. Alors, c'est assez important, il s'agit quand même d'une identité précise qui est le siège, qui est le fort. Le fort de la liberté, le siège de la liberté, le siège du oui, le siège du non, et le siège de l'acceptation d'être la révélation que Dieu fait de lui-même. Est-ce que j'accepte, moi, finalement, d'être révélation de Dieu pour moi-même et pour les autres? Et est-ce que je peux l'accepter sans que ce soit... c'est pas une prétention, c'est pas du tout de l'orgueil, c'est le contraire de l'orgueil, justement. Je crois que finalement la question de l'orgueil est très, très importante. C'est très difficile de discerner l'orgueil en fait. C'est peut-être la passion la plus difficile à saisir. Mais l'orgueil, c'est justement la prétention de s'accomplir sans Dieu ou à la place de Dieu. Donc c'est bien autre chose. C'est probablement l'inverse de ce que nous disions. Et peut-être que dire que le projet pour l'homme, c'est d'accepter d'être dans, par sa vie, la manifestation de l'amour de Dieu, l'expression de l'amour de Dieu, l'expression de la sagesse de Dieu, etc. C'est ça, c'est l'humilité, justement. C'est ça, l'humilité. L'humilité, c'est humblement vouloir ce que Dieu veut pour moi-même, pour les autres et pour son monde. Humblement obéir à Dieu. Donc c'est vraiment l'humilité, c'est pas du tout l'orgueil. Mais donc, des personnes qui nous accuseraient de prétention, etc., pas du tout, c'est de l'humilité. Qu'on ne nous accuse pas d'humilité, c'est pas un péché, l'humilité. Et alors, cette identité, qu'on a, Saint Basile, on parle un peu, c'est un des premiers à avoir défini le concept d'hypostase créée. C'est très important parce que, le concept théologique de personne créée, et n'a jamais été donc dogmatisé par l'Église, comme je disais tout à l'heure, il y a apparemment de dogmes anthropologiques exprimés par les conciles, mais le concept théologique de personne créée, donc de personne humaine, il s'est élaboré, il s'est développé progressivement jusqu'à devenir au 19e ou 20e siècle très beaucoup plus clair, par exemple au 20e siècle, dans la théologie de Père Dimitri Stanilowé ou chez Vladimir Lossky. Mais chez les pères anciens, il y avait bien l'idée d'hypostase créer l'hypostase humaine. Par exemple, c'est-à-dire que Saint Basile, si vous voulez, dans la lettre 38, fait bien la distinction entre ce qui se rapporte à la nature, qui est commun à tous les hommes, et ce qui est propre à une identité particulière qui va donc faire des choix par elle-même, pour elle-même et pour les autres. Et c'est pour ça qu'il dit, il donne, il dit, le, il dit voilà, elle, l'hypostase caractérise l'être humain par ce qu'il a d'unique et elle le distingue des autres. Donc il y a un phénomène de distinction, de caractérisation et de distinction qui se fait dans la personne, mais ce qui est la manifestation de la personne, et je conclue là-dessus, c'est ça que je voulais dire en conclusion, ce qui est la manifestation de la personne, c'est sa capacité à obéir, justement, à dire oui. C'est le oui qui fait la personne, parce que c'est dans le oui que l'être humain ressemble à Dieu. C'est dans le oui que l'être humain active les énergies divines qui lui sont données par création et par le baptême, et c'est par le oui que l'être humain, donc, devient vraiment coopérateur du projet divin pour lui-même et pour le monde. Voilà, donc, conclue cette dernière intervention de l'année, je ne sais pas ce qu'on fera l'année prochaine, ce qui me sera demandé par les évêques, je ne sais pas, enfin, je ferai ce qu'on me demandera. Mais je veux bien éventuellement revenir, si c'est nécessaire, si c'est intéressant, sur cette question du mystère de la personne créée comme sceau, disons, de la théologie de l'homme et comme sceau du dogme anthropologique. Merci et bonnes vacances.